Radio Kapi.
Le journal grâce à Mzati. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu à Kisangani pour inaugurer officiellement l'aérogare de l'aéroport international de Bangoka. Déjà, quelques ministres du gouvernement central et une dizaine de députés nationaux et sénateurs sont sur place. Au Nord Kivu, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis tôt ce matin autour de Kashuga, dans le territoire des Masisi, où les combats opposent le M23 au VDP Wazalendo. Les Wazalendo ont réussi à reprendre le contrôle de Kalembe à l'issue des affrontements hier, rapportent plusieurs sources. Notre invité est le directeur provincial de la Société nationale d'électricité à Kinshasa. Denis Tukuzu affirme que l'ASNEL a remis en service ses deux postes de la FUNA et du TEXCO mis à l'arrêt après la forte pluie de samedi dernier. Cette situation a plongé plus de 2 millions de ménages dans le noir. À toutes et à tous, bonjour. Province de la Tchopo pour commencer. Le président de la République est attendu dans la ville de Kisangani. Cette visite est la première au chef-lieu de la Tchopo après la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Durant son séjour à Kisangani, il va procéder à l'inauguration officielle de l'aérogare de l'aéroport international de Bangoka. Jacques Mkonkole nous en dit plus.
L'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'avère imminente dans la ville. Signes évidents, la mobilisation générale de la population décrétée par le maire de la ville de Lilikoundé et l'entreposage du matériel de sonorisation à l'esplanade de la poste. Autres signes évidents de cette visite, l'arrivée hier à Kisangani de quelques ministres du gouvernement central et une dizaine de députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation. La mise en service de cet aéroport va apporter un offre de soulagement aux passagers des aéronefs qui exploitaient cet aéroport, estime Tipe Tambwelu Kongo, président de la FEC Tshopo, car selon lui, cet aérogare répond maintenant aux normes et les passagers peuvent être pris en charge correctement. Il estime que des compagnies aériennes telles Ethiopian Airlines et Kenya Airways profiteront de cette opportunité pour renouer avec le trafic aérien à Kisangani. Puisque, précise-t-il, les opérateurs économiques locaux voyagent chaque semaine soit vers Goma, soit pour Kinshasa, afin de prendre des vols internationaux pour l'extérieur du pays. Rappelons que les travaux de réhabilitation entrepris depuis 2022 ont consisté en la réhabilitation de l'aérogare, l'élargissement de la piste d'atterrissage, l'extension de l'aire de stationnement ainsi qu'au balisage lumineux. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et dans la province du Tanganyika, les élus provinciaux ont peint un tableau sombre des conditions de vie de la population dans quelques territoires. C'était au cours de la plénière de lundi à l'Assemblée provinciale où certains députés ont présenté leur rapport de vacances parlementaires. Parmi les problèmes qu'ils ont rencontrés dans les territoires, il y a notamment l'état des délabrement avancé des infrastructures à Kabalo ou l'exploitation illicite des minerais à Nyonzo. Le point avec Paul Munanga.
Au cours de la plénière, les rapports des vacances parlementaires des trois territoires ont été présentés. Il s'agit de Kalemie, Kabalo et Nyonzou. Dans les territoires de Kabalo, les députés font remarquer la détérioration des infrastructures de base. Il y a aussi la tracasserie militaire et policière au niveau des barrières que ces services érigent. Cette tracasserie est décriée par la population, précise les députés. Ils signalent aussi le fait que le secteur agricole est touché à cause des éléphants qui ravagent des champs de la population à Kabalo. À Nyonzou, par contre, la rapporteuse des élus provinciaux de ce territoire dénonce l'exploitation artisanale illicite des minerais par des ressortissants chinois sans les paiements de la redevance minière. Adolphine Mbouyou annonce la présence accrue et inquiétante des Chinois dans certains sites miniers. D'après elle, ils exploitent des minerais sans cahier de charges, sans la réfection des routes ni la construction des écoles et des centres de santé. La rapporteuse signale aussi une présence de plusieurs enfants mineurs dans des sites miniers. Kalemi Pole Munanga, Radio Okapi.
Nord Kivu, des violents combats opposent ces mardis les rebelles du M23 aux groupes armés VDP Wazalendo autour de Kashuga dans les territoires de Masisi. Plusieurs sources locales renseignent que les Wazalendo ont réussi à reprendre le contrôle de la localité de Kalembe. C'est à l'issue d'un affrontement qui a duré toute la journée d'hier dans cette zone à cheval entre Masisi et Walikale. Le récit de Bernard Denyangi.
Depuis 3 heures du matin ce mardi, des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans le village de Missinga, à une courte distance de l'agglomération de Kashuga, dans la localité de Mweso. C'est sur l'axe routier Kichanga-Mweso-Kalembe-Pinga, dans le territoire de Masisi. Des sources recoupées dans la zone indiquent que la coalition de volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo ont effectivement réoccupé les villages Kalembe, Kishali et Kalongé à l'issue de leur contre-offensive hier lundi contre les rebelles du 1-23 qui ont conquis ces entités dimanche dernier. À présent, le Wazalendo, notamment le 1 de ses rénovés de Guidon et APCLS de Janvier Karahiri, poursuivent leurs attaques contre les rebelles du 1-23 sur l'axe Kashuga en territoire de Masisi et sur l'axe Ioula-Matenge vers les limites avec la chefferie de Buito au territoire de Rutshuru. Jusqu'en fin de matinée, les affrontements se poursuivaient encore dans la zone, même s'il n'y a pour le moment aucun bilan disponible. Cependant, à Kalembe et à Kalongé vers Walikale, nos sources parlent d'une situation humanitaire déplorable à la suite des 2 jours de combats ayant eu lieu dans la dite zone. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, un accrochage a opposé hier les FARDC aux rebelles du M23 à Kanyamagal, un village du territoire de Lubero situé à environ 5 km de Lubero centre. Selon des sources militaires, les rebelles ont attaqué les positions de l'armée, provoquant un échange de tirs de quelques minutes. Actuellement, le calme est revenu et chaque camp maintient ses positions initiales, précisent les mêmes sources. Pendant ce temps, le gouvernement de la République d'Angola dénonce la violation flagrante du cessez-le-feu à la suite de l'occupation de Kalembe au nord Kivu par le M23. Ceci est contenu dans un communiqué publié hier. Selon le ministère angolais des Relations extérieures, cette action représente une violation flagrante des principes et de l'esprit des recommandations et décisions de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 et du cessez-le-feu entré en vigueur à minuit le 4 août 2024. Le gouvernement de la République d'Angola condamne fermement cet acte hostile qui compromet les efforts en cours pour rechercher une solution durable au conflit dans l'est de la RDC. L'Angola exhorte les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu et d'éviter les actes hostiles qui conduisent à une escalade du conflit. Autre nouvelle sur la fréquence de la paix à Ituri. Voici plus d'un mois que la police nationale congolaise traque tous les véhicules qui circulent sans plaque d'immatriculation à Bunia, une initiative louée par des acteurs sociaux de la ville. Cependant, de nombreux propriétaires des véhicules se disent victimes de ce qu'ils qualifient de mafia, orchestrée à la douane de Mahagi et Karombo, porte d'entrée officielle de la RDC dans la province de l'Ituri. Une situation que l'ONG des défenses des droits humains Justice Plus dénonce. C'est ce que nous dit à Bunia Sadiki Aboubakar.
Ils sont nombreux, des propriétaires de véhicules sans plaque d'immatriculation, non pas par manque de volonté, mais parce que victimes d'arnaques au niveau de la douane. Certains parlent même d'opérations mafieuses, comme l'explique Bienvenue au Ketch, le secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus.
Il y a plusieurs véhicules qui ont été réellement déclarés au niveau de la douane, mais lorsque les propriétaires se sont rendus au niveau de la DGI pour obtenir la plaque, ils se sont retrouvés que leur véhicule n'existait pas dans le système. Le propriétaire a payé l'argent à la douane, mais les douaniers déclarent par exemple que c'est la farine qui est entrée, alors que c'est le véhicule. Beaucoup d'assujettis ont été obligés de payer beaucoup d'argent allant des 500 à 700 $ pour régulariser au niveau de la DGDA, parce qu'ils ont été roulés.
Justice Plus en appelle à la justice pour toutes les victimes de cette fraude. C'est ainsi qu'il recommande au gouverneur de province
de mettre en place une commission mixte qui sera composée du gouvernement provincial, du parquet général et de la DGDA pour écouter les assujettis victimes de ces actes mafieux afin d'identifier et poursuivre les auteurs.
Lors de sa prise de fonction le jeudi 17 octobre 2024, le tout premier directeur provincial de la DGDA Ituri, Félix Kitengi, avait dit, je cite, « Nous devons changer le vocabulaire de la fraude en cellule des recettes ». Fin des citations. Bunia. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Merci à vous, Sadiki Aboubakar. Revenons au Nord Kivu. Le syndicat des enseignants du Congo Sieko à Butembo rejette fermement toute collaboration avec la synergie des groupes de pression et d'autres structures de la jeunesse. Cela dans le but d'interrompre les activités scolaires aussi bien dans les secteurs privés que publics, en solidarité avec les enseignants grévistes pour attirer l'attention du gouvernement. L'autorité urbaine, pour sa part, met en garde de toute personne qui tenterait de perturber le bon déroulement des cours dans les écoles. Grévistes, Salomon nous en parle.
Les revendications des enseignants sont purement apolitiques. Benito Mwasso, secrétaire permanent du SIECO, dément toutes les allégations selon lesquelles le syndicat serait de connivence avec des acteurs politiques ou des groupes de jeunes pour soutenir leurs droits.
Nous ne serons jamais des politiciens et nous ne le sommes pas. Grave encore des groupes de pression. Mais dire que nous avons une relation avec eux, jamais. Les enseignants n'ont pas de relation avec les groupes de pression.
Le maire de Boutembo accuse certains acteurs politiques locaux de chercher à bloquer le déroulement des cours dans toutes les écoles. Le commissaire supérieur principal, Roger Mouabaï Kiteli, met à garde toute personne qui chercherait à perturber les activités scolaires.
Je m'inscris en faux contre la manipulation politicienne. Certains acteurs politiques se donnent l'audace de forcer même les écoles, tant privées que publiques, à prendre part à ces mouvements de grève. J'appelle la jeunesse à la non-manipulation par qui que ce soit. Les contrevenants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes.
Lundi, la synergie des groupes de pression et certains candidats malheureux aux dernières élections législatives à Boutembo ont annoncé l'opération dite zéro uniforme à travers la ville avant d'y renoncer. Beni Grévy Salomou, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, les mesures prises par le gouvernement pour garantir tant soit peu la sécurité des voyageurs sur le lac Kivu après le naufrage du 3 octobre dernier sont très peu suivies par les armateurs. Constat fait hier par le président des armateurs de Goma qui exige la rigueur dans la réglementation du trafic lacustre. Gabriel Wamenya s'est rendu au port de Goma. Voici son reportage.
Nous sommes au quai du port de Bateau Emmanuel. Il est presque 13h locales. Ici, les passagers en provenance de Bukavu débarquent du Bateau Emmanuel 2 qui vient juste d'accoster. Les uns portent les gilets de sauvetage, d'autres n'en possèdent pas. Témoignage.
L'ambiance était très bien et on portait des gilets sans négociation.
Un peu plus loin de là, c'est le quai du bateau Aganze qui embarque les passagers. Ici, visiblement, ce sont les membres de l'équipage qui portent chacun un gilet, mais pas les passagers. Contacté, un des agents du dit bateau précise que c'est à l'intérieur du bateau qui distribue ses équipements aux voyageurs. On l'écoute.
Donc nous quittons à Goma à 14h. On est en train de distribuer les gilets à tout le monde. Donc ceux qui sont là, ceux dont vous voyez qui n'ont pas encore porté les gilets, ils porteront aussi ça, parce qu'on est en train de les distribuer.
De son côté, le président des armateurs de Goma s'est dit indigné du comportement de certains armateurs. Les uns parmi eux ne veulent pas respecter les mesures de sécurité prises dernièrement par le gouvernement. C'est entre autres le respect du tonnage et l'interdiction des navigations vespérales. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Du côté du Sud Kivu, entre-temps, les armateurs naviguant sur le lac Kivu à partir du territoire des Calais sont accusés de conditionner la remise des gilets de sauvetage aux personnes qui voyagent à bord de leurs embarcations. Ils exigent une somme d'argent à ces derniers. L'administrateur des Calais renseigne qu'une partie de ces gilets est une dotation du gouvernement provincial dans le souci de limiter les dégâts humains en cas de naufrage. D'autres armateurs s'en sont approvisionnés sur fonds propres conformément aux recommandations faites par le ministre des Transports et Voies de Communication depuis le drame survenu au port de Kitoukou au Nord Kivu. L'administrateur adjoint Archimède Karebois martèle que l'achat du billet de voyage donne automatiquement aux passagers le droit à un équipement de protection. Il est au micro de Jean Kassami.
La province a donné l'ego en octroyant une petite quantité de gilets de sauvetage à titre d'exemple. C'est l'occasion d'ailleurs de féliciter l'autorité provinciale qui a fait, n'est-ce pas, une mission de 9 jours dans les territoires de Calais, notamment à Bouzi, Minova. Et pendant son séjour, il faisait des sensibilisations pour les ports des gilets de sauvetage. Certains armateurs en ont abusé justement parce que certains font payer encore aux passagers des gilets de sauvetage. Nous avons martelé sur ça dans une réunion du conseil de sécurité organisée hier. Quand vous montez déjà dans un enjeu, le prix que vous avez payé, l'argent là du gilet de sauvetage y est incorporé. Donc il n'est pas question que vous payez et que vous encore vous louez les gilets de sauvetage. En tant qu'administrateur territoire, nous allons nous investir pour que ces tracasseries cessent sur nos ports.
La Corporation des armateurs du lac Kivu indique qu'elle est prête à sensibiliser les récidivistes afin que chacun se conforme aux mesures de sécurité annoncées par les autorités. Plus de 100 Congolais refoulés de l'Angola depuis quelques jours vivent dans des conditions inhumaines à chaque fois. Frontière située entre l'Angola et les territoires de Kaemba dans la province du Kwango. D'après l'administrateur de Kaemba, ces personnes, dont les femmes et les enfants, sont sans abri et manquent de tout. Irène Mbomaluzolo.
D'après l'administrateur du territoire de Kaemba, au moins 103 personnes, parmi lesquelles les femmes et les enfants, sont en train de vivre les calvaires à la frontière entre l'Angola et la province du Kwango, précisément à Chakufwa et environ dans les territoires de Kaemba. Il s'agit des Congolais qui ont été refoulés de l'Angola. Ces refoulés passent nuit à la belle étoile faute d'abri, indique Jean-Marie Lasse qui affirme avoir effectué leur identification.
Oui, effectivement, ils étaient nombreux à Chakufwa, c'est là où on les a identifiés tous. Ils étaient 103, je ne suis pas à Chakufwa. Mais ils vivaient dans des situations très difficiles. Les autres ont préféré aller chez eux. Mais ils étaient refoulés tous de l'Angola, à la frontière de Chakufwa, à la frontière Angola-Congo, à Chakufwa même. Et il y en a qui ont préféré quitter Chakufwa pour leur village.
L'administrateur de Kaemba, Jean-Marie Lasse, affirme avoir saisi sa hiérarchie pour voler au secours de ces Congolais refoulés. Préoccupé, la société civile du territoire de Kaemba qui déplore cette situation appelle les autorités congolaises à une intervention urgente en faveur de ces personnes en détresse. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La mission des observateurs de l'Union européenne a affirmé ce mardi avoir relevé au Mozambique des altérations injustifiées des résultats des élections de ces pays d'Afrique australe où le principal opposant a appelé à manifester pour dénoncer des fraudes électorales. La mission a constaté des irrégularités lors du décompte et des altérations injustifiées des résultats des élections du 9 octobre pour désigner le président et le parlement. Au niveau des bureaux de vote et des districts, ont précisé les observateurs de l'Union européenne dans un communiqué.
L'invité.
La Société nationale d'électricité SNEL Kinshasa vient de remettre en service ses deux postes de la FUNA et du TEXCO, postes mis à l'arrêt après la forte pluie de samedi dernier. C'est plus de 2 millions de ménages qui ont ainsi été privés d'électricité. Le directeur provincial de la SNEL estime que tout ce qui est fait jusque-là pour éviter l'inondation de ces sites n'est que provisoire. Il appelle l'État congolais à tout faire pour appliquer la loi en libérant 2,5 km d'espace non destiné aux constructions. Espace situé le long de la rivière Kalamu est toujours occupé par des constructions anarchiques alors que les occupants ont déjà été indemnisés sur fonds de l'État. Denis Tukuzu s'entretient avec Babel Mpongo Masimango.
Bonjour monsieur le directeur.
Bonjour.
La SNEL Kinshasa avait mis à l'arrêt deux de ses stations samedi. Quelle est aujourd'hui la situation?
La situation était très grave parce que nous avons enregistré un niveau très élevé d'inondation qui a fait en sorte qu'au niveau de nos installations, les équipements étaient immergés à la hauteur de plus ou moins 1,60 m. Nous étions obligés de mettre hors service nos deux postes stratégiques, que ce soit le poste appelé ITESCO et celui qui appelait FUNA. Après la pluie, on s'est mis à service pour essayer d'évacuer par de force en utilisant des motopompes et nous avons séché le poste de l'ITESCO et après quelques travaux préliminaires d'entretien et de séchage, le poste d'ITESCO était rentré le même jour, le samedi, pratiquement aux alentours de 16h. Mais là où il y avait encore beaucoup à faire, c'était plutôt FUNA, parce que FUNA, le poste est plus grand que celui de l'ITESCO, et FUNA est un poste très stratégique qui reprend plus ou moins 418 cabines et qui dessert plus ou moins 2 millions de ménages. Alors les eaux avaient pris de la hauteur jusqu'à plus de 1,62 m et il fallait beaucoup de travail. Lundi, à 1h du matin, nous avons parvenu à remettre le poste de FUNA en service.
Oui, directeur, cette année en tout cas, il y a quelques mois, il y a eu des grandes pluies à Kinshasa et la SNEL avait connu la même situation. Vous avez déjà acheté des motopompes pour cela. Il y avait aussi un projet visant à surélever vos équipements. Est-ce que cela est en cours? Parce que là, c'est la première pluie, mais il y en aura d'autres. Qu'est-ce que la SNEL prévoit pour ne pas retomber dans
une situation? C'est une très belle question. Au niveau de SNEL, nous avons surélevé les murs, Nous avons acquéri de nouvelles motopompes puissantes pour les systèmes d'exor. Ces motopompes ont réagi. Mais le vrai problème, c'est que la météo nous annonce encore de pluie, effectivement, comme vous avez dit. La solution pérenne, ce n'est pas ce que nous faisons. La solution pérenne, c'est de détruire les constructions anarchiques qui ont été dénombrées tout au long de la rivière Kalamu à une longueur de plus ou moins 2,5 km. Et pour cela, le gouvernement a obtenu un financement auprès de la Banque mondiale et qui est géré par la coordination ICEM qui dépend du ministère de l'Hydraulique. D'après les informations, les gens étaient indemnisés. On les a donné le temps de partir, ils résistent. C'est ici où il faut appliquer la loi, il faut appliquer la force de l'État pour donner la solution pérenne. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Aujourd'hui, on en parle, et puis demain, nous pouvons encore risquer de revenir pour dire qu'il y a encore inondation, et on a séché, et on va reprendre. Mais ce qui nous inquiète à nous, la SNEL, est que nos équipements sont des équipements électromécaniques. Ce sont des équipements construits pour ne pas fonctionner sous l'eau. Ce ne sont pas des turbines. Au fur et à mesure qu'ils absorbent de l'eau, nous risquerons un jour à atteindre ce qu'on appelle le point de résistance zéro, c'est que les équipements seront complètement obligés à être remplacés et ça serait un manque à gagner important pour notre entreprise. L'État doit entrer en jeu, le gouvernement provincial, le ministre des Affaires foncières et tout le gouvernement doit être engagé pour sauver la population parce que 2 millions de ménages n'est pas une simple affaire. Et l'électricité est à la base de toute l'économie, de tout ce qui est socio-économique.
Quel message vous adressez à vos abonnés après tout ce qui s'est passé?
C'est maintenant l'occasion pour moi de rassurer beaucoup plus à nos abonnés ou à nos clients que la SNEL est à leur service. Ce qui est arrivé, donc l'indisponibilité de 24 heures pour les uns et 48 heures pour les autres, est liée à une cause qui n'est pas dépendante de la SNEL. C'est une catastrophe naturelle et qui fait l'objet de plusieurs facteurs, notamment le système de voirie et drainage de la ville, l'environnement, surtout aussi la mentalité, parce que on pourra construire 1000 ou 18 millions de caniveaux, mais si nous-mêmes, la population, nous jetons tout dans les caniveaux, nous gérons très mal nos déchets, nous pourrions toujours vivre aussi ça.
Directeur, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, la Radio Okapi.
Denis Tukuzu répond aux questions de Babel Mpongo Massimango. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Jordan Blaise Sindani Kambala sous la supervision de Martin Sebujangwe. Deb s'est vite à assurer la mise en onde. Merci de l'avoir écouté.